Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
It is.
Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Okay, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ?
That's all, that's all.
Cette semaine, épisode spécial sur l'acronyme le plus recherché du moment, NFT. On reçoit Marie, la première mannequin à avoir exploré cette piste et vendu plus de 2500 œuvres à son image. En deuxième partie du podcast, Pierre-Antoine, de l'agence C-Models, nous raconte comment il a accompagné Marie dans son projet. Bonjour Marie.
Hello.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'accueillir.
Tu vas bien ?
Oui, ça va et vous ?
Yes, super.
On va te détendre un petit peu, t'inquiète pas. Merci de venir nous voir. Écoute, j'aimerais déjà que tu nous parles un petit peu de ta carrière de mannequin. Enfin, déjà que tu commences par nous dire qui tu es et d'où tu viens déjà.
Déjà moi je m'appelle Marie. Je suis née en Auvergne, mais j'ai jamais grandi là-bas. Genre vraiment du sud-ouest, vraiment tout le sud-ouest. J'ai fait les Béarn, les Landes, le Pays Basque et les Pyrénées, donc vraiment tout le sud-ouest. La mode, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée. Je me sens très bien quand j'avais 6 ans, je faisais des allers-retours dans la cour de récréation pour faire la top modèle, donc c'était vraiment quelque chose...
T'étais la star de la petite école déjà.
Depuis le début, c'était un rêve, mais c'était plus un fantasme qu'un rêve parce que mes parents, ils viennent pas du tout de ce milieu-là. Dans le sud, on est très loin de la mode, même je pense, pour s'habiller.
Il y a des loups, quoi, un petit peu.
Donc c'était vraiment plus un fantasme. Et au bout d'un moment, j'ai eu 15 ans et on m'a contacté sur Instagram. Et là, je me suis dit que c'était peut-être possible parce que la personne a directement demandé le email de mes parents quand il a su que j'étais mineure. Du coup, je me suis dit que c'est bon, je tenais quelque chose.
Okay.
Ma mère a fait en sorte de faire tout ce qu'elle pouvait pour réagir avec ce monsieur qui parlait que anglais, qu'on pouvait pas voir. Elle a tout fait pour faire mon visa et j'ai réussi à partir pour mon premier contrat en Corée du Sud pendant 2 mois, pendant mes grandes vacances avant ma terminale. Et c'est là que tout a commencé vraiment.
Ah, c'est énorme. Donc tu pars on-stay en Asie avant tes 16 ans, quoi. Entre tes 15 et tes 16 ans.
Ouais, ils ont attendu que j'ai 16 ans pour signer le contrat. Okay. Et je suis partie quand j'avais 16 ans, du coup, ouais, en Corée.
Ouais, ça, c'est vrai qu'il y a plein de... On n'en a pas parlé jusque-là sur le podcast, mais c'est vrai que c'est une opportunité pour les new face, l'Asie où t'as, en règle générale t'as un contrat où tu sais que tu vas rentrer avec un minimum d'argent que tu travailles ou que tu travailles pas.
Ce qui n'a pas été mon cas.
Ce qui n'a pas été ton cas malheureusement.
Non.
Okay.
Mais
c'est vrai que
même...
c'est un peu un truc qui est un peu formateur. Tu peux nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé là-bas?
Ouais, ça a été une expérience de dingue pour moi parce que j'ai des problèmes pas tout le temps faciles avec ma famille. Du coup j'avais vraiment besoin d'émancipation et du coup me retrouver... 2 mois toute seule, indépendante en Corée, ça a été quand même une expérience incroyable pour moi. Pour le mannequinat, ça m'a appris les bases parce que je me suis retrouvée là-bas. On m'a donné les codes du modèle appartement et puis voilà quoi.
Alors que
j'avais aucune idée de... Même pour faire mes courses, en vrai, je savais pas où aller, on m'avait donné un plan et j'avais juste le 7-Eleven et pendant un mois, j'ai mangé que des nouilles à réchauffer.
Ouais, les ramen.
J'étais un peu au bout. Mais en plus, je parlais pas du tout anglais, donc je pense que le premier mois, j'ai rien compris à ce qui se passait. Et après, ça m'a déclenché justement l'anglais tellement j'avais pas le choix de me faire comprendre comme ça. Et ça m'a appris les bases quoi, du mannequinat parce que je suis arrivée en casting, je me souviens que des Russes, elles faisaient tac, tac, tac. Poser.
Donc toi tu regardais, tu disais ok, moi aussi je vais faire ça.
Ça m'a appris comme ça sur le tas, mais bon, c'est vrai qu'avec l'agence ça s'est pas très bien passé. Du coup, je suis revenue dans le sud faire ma terminale. Je me suis retrouvée dans le sud, j'avais plus l'agence parce que ça marchait pas. Ils parlent. Le problème de langage anglais et français c'était trop compliqué. Puis de pas pouvoir les rencontrer c'était quand même pas pratique.
Ah, parce que
mais comment ça se fait ça qu'on t'a pas proposé un petit trip pour rencontrer l'équipe et tout?
Parce qu'en fait ils étaient basés, c'était une mother agency qui était basée au Canada, L'agent, lui, vivait au Brésil. C'était quelque chose de vraiment très...
Un peu
très
flou, quoi.
Du coup, je les ai quittés, mais je me suis retrouvée toute seule dans
le sud. T'es revenue avec des sous quand même, un petit peu, ou pas?
Rien du tout. Alors que pendant 2 mois, je pense que j'ai fait au moins 12 jobs, des campagnes de sous-vêtements dans les magasins et tout, alors que j'avais 16 ans. Je ne suis même pas sûre que ça soit très, très légal.
C'est grave, ça.
Il faut faire vraiment attention, je pense, quand on part en Asie, de bien gérer les contrats, parce qu'il y avait des filles de 12 ans qui travaillaient tous les jours. Je pense que c'est vraiment un sujet qu'on pense pas assez.
Ah, c'est clair. Moi, je connais... Il y a quelqu'un de mon équipe qui l'a fait en tant que mec, qui lui a fait la Chine. Après, je connais des filles qui ont fait le Japon, mais ils sont tous revenus avec des minimums. Que tu travailles ou pas, ils savaient qu'ils reviendraient avec un petit pactole. Et c'est pour ça qu'ils y allaient, quoi.
Mais le truc, c'est que moi, je m'y connaissais pas. Ma mère s'y connaissait pas. Et le contrat qu'ils nous ont fait, en fait, c'était... J'avais 3 semaines pour avoir 7 jobs. Mmh. Et si les 3 premières semaines je faisais 7 jobs, j'avais 1 600 € à la fin des 2 mois, ce qui de base était rien.
Wow.
Et du coup, en fait, ils font exprès de pas te faire travailler les 3 premières semaines pour te dire « Ah, bah, t'as pas travaillé les 3 premières semaines, t'es pas payé, faut que tu rembourses toutes tes dettes si tu veux être payé. » Sauf qu'ils rajoutent des dettes en plus qui n'existent pas. Et...
Ouais, c'était un peu un scam, quoi, ce que tu décris, quoi.
Après, ça m'a permis de vivre...
Oui, t'as fait ton expérience à l'étranger.
Pendant 2 mois, nourri. Ça m'a quand même, c'était une expérience, même si ça m'a pas rapporté d'argent, c'était quand même une expérience de dingue pour moi quand même.
Ok, donc là tu reviens dans le sud-ouest, tu finis ta scolarité, c'est ça?
Ouais, mais là j'étais perdue parce que j'avais plus du coup aucune référence dans le mannequinat, parce qu'on m'était venu me chercher. Du coup là j'avais vraiment plus de repères, je savais pas comment faire. J'ai commencé de moi-même à aller à Paris de temps en temps pendant les vacances. Je me suis dit que le monde de la nuit, il m'envoyait beaucoup de paillettes dans les yeux, et je me suis dit, j'ai cru tous ces gens-là du milieu de la nuit qui me disaient qu'ils allaient m'amener là. J'ai fait pas forcément des bonnes rencontres. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'ils étaient pas forcément bienveillants, ces gens-là.
Genre des promoteurs ou des trucs comme ça?
Les promoteurs, ils m'entouraient, mais je comprenais bien qu'eux, ils allaient pas m'apporter grand-chose. Mais une fois qu'on est dans ces soirées, il y a toujours des gens qui disent « Ah, moi, je connais la dame de chez Marilyn » ou « Moi, je connais les Victoria's Secret », tout ça.
Ah, d'accord. Ouais.
Et du coup...
Faut faire attention à tous ces gens. Il y a beaucoup, beaucoup de prédateurs
Moi, je venais de nulle part. J'étais super naïve. Quand je voyais tout ça, c'était vraiment des... J'avais pas le recul, quoi. Ouais. C'était dur, du coup... Je me suis retrouvée avec une manager qui était vraiment horrible. Elle me faisait pleurer avant les castings et tout. C'était trop, trop bizarre. Du coup, après, je me suis...
Elle te faisait pleurer, pourquoi? Parce qu'elle te mettait la pression
ou... Je sais pas, elle m'avait présentée chez IMG et Elite. Et avant mes rendez-vous, elle m'a fait pleurer. Genre, ouais, ta peau, c'est de la merde. T'es trop de la merde. De toute façon, c'est toute ta faute. Et tout. Alors que tu dis pas ça en tant qu'agent avant de donner ton mannequin, je pense, dans une grande agence. C'est vraiment bizarre. Du coup, j'étais vraiment perdue. J'étais à 2 doigts de me dire « Bon, ben, je prends mon visage et je toque chez Edith ou je sais pas qui et leur dire « Bonjour, je suis là, est-ce que vous êtes intéressé ?» Je savais pas comment m'y prendre. Et c'est à ce moment-là que ma mother agency, Simodes, m'ont contacté. Au début, j'étais pas sûre parce qu'il venait de commencer. Du coup, j'avais peur encore que ça soit un scam. Mmh. Puis finalement...
Ah, parce que jusque-là, c'est que de la mauvaise expérience depuis le départ pour toi, là.
Pour moi, quand même, la Corée, même si ça n'a pas rapporté d'argent, ça reste une bonne expérience. Parce que c'est quand même un truc de ouf. Mais...
ouais, 16 ans, c'est ça.
Mais après, c'est vrai que ma terminale, quand je cherchais un moyen de trouver, c'était très dur parce que le milieu de la nuit, en fait, je me suis très mal...
entourée.
Ouais, c'est ça, j'ai pas du tout pris la bonne route pour trouver ça, mais je savais pas quoi. Donc... voilà, et puis quand ils m'ont trouvé, ils ont appelé ma mère, ils ont dit tout ce qui avait besoin d'être dit, ils m'ont rassuré, ils m'ont fait venir à Paris.
Donc là, tu parles de Simodels quand tu rencontres Simodels.
C'est ça, exactement.
Okay. Qui, eux, te contactent quoi, sur les réseaux
ou... Oui, sur les réseaux pendant plusieurs temps, mais c'était le début, ils n'avaient pas beaucoup d'abonnés encore à ce moment-là. Du coup, je me suis dit, c'est encore... On me contactait souvent, mais ça n'avait jamais l'air très sérieux. Puis finalement, lui m'a quand même montré qu'il était très intéressé, il a parlé avec ma mère, et ils m'ont pris une nuit d'hôtel pour que je fasse tous mes rendez-vous d'agence. Mm-hmm. Du coup, j'ai vu qu'ils faisaient un premier pas, quoi. Donc, j'ai eu confiance, et c'est là que tout a commencé. Depuis, ça se passe super bien avec eux, quoi.
Cool.
Trop bien. Ça fait combien de temps, du coup?
Là, ça va faire 3 ans que je suis chez Simodels. Et après que, du coup, j'ai fait mon bac.
Ouais.
Et est-ce que là, t'as quel âge?
Là, j'ai envie d'avoir 20 ans.
Ok.
Il y a un mois et demi.
Donc ok, donc si Modeste, qui est donc une agence mère, décide de te placer, c'est ça, donc
c'est ça.
Chez Select, il me semble.
Ouais, j'ai fait plein de rendez-vous d'agence, on a fini par choisir Select et je suis arrivée en septembre à Paris pour 2019 pour vraiment commencer. Mais quand je suis arrivée, la veille, j'ai fait ma valise et j'avais aucune idée de si c'était pour 3 jours ou si c'était pour toute ma vie. Et depuis, je suis jamais rentrée dans le sud à part pour Noël, quoi. Alors c'était vraiment quelque chose d'énorme pour moi. Et finalement, je fais ma valise, j'arrive à Paris, c'est là qu'ils me disent « Tiens, les clés, tiens, le contrat », et j'étais là. C'est d'un coup, comme ça.
Et ah, c'est, ça a commencé, quoi.
Donc c'est quoi, ces modèles d'appartement ou t'as ton propre appart?
Ouais, les 3 premiers mois, j'étais en modèles d'appartement. J'arrivais dans la chambre, il y avait 2 lits superposés, 4 filles dans la chambre, on la était 8 dans l'appartement. Mais bon, c'était le début, quoi. J'étais quand même contente. Après, je suis restée que 3 mois parce que c'était dur, le modèle appartement. C'est pas toujours facile d'être avec autant de filles qu'on connaît pas. C'est pas toujours gentil entre elles.
Ouais, c'est clair.
On a entendu des belles des histoires de modèles d'appartement. Ok, ça commence vite pour toi. Tu dis 2019, c'est avant Covid, du coup,
ouais,
pas trop longtemps avant.
Juste avant Covid, ouais. En fait. Juste avant le Covid.
Et ça commence fort ou que ça prend un peu de temps et comment ça se passe?
Déjà, quand je suis arrivée pour signer mon contrat à l'agence, du coup, la veille, j'avais à l'agence avec ma valise de, je sais pas, de un jour ou de un mois. Et ils me donnent les clés du modèle appartement. Ils me disent, reviens signer le contrat demain. Et j'y vais pour signer le contrat. Et moi, je pensais que la pocket money, elle était d'office si j'avais le modèle appartement. Du coup, je vais voir la comptable pour leur faire signer le contrat et leur demander ma pocket money. Et là, ils me disent, bah non, les Français, elles n'ont pas le droit à la pocket money. Et là, j'imaginais ma mère me dire, mais Marie, t'as pas d'argent, tu veux faire comment vivre sans Paris? Je vais voir mon booker, je dis, vous savez, dans combien de temps je vais travailler? Il me dit, bah, faut prendre du temps quand même, faut prendre des photos. Là, je comprends que l'argent, il va pas tomber tout de suite. Et là, je me suis mis à fondre en larmes, mais c'était vraiment comme si la veille, on disait que c'était bon, et que là, je me disais, ça y est, je vais rentrer, c'est trop dur.
Ah ouais.
Et puis finalement, on s'est arrangé avec l'agence, ils m'ont passé de la pocket money jusqu'à mes 18 ans. Du coup, je suis restée dans le modèle appartement jusqu'à mes 18 ans avec la pocket money. Mais ça fait une dette, quoi.
Ouais.
J'avais une grosse dette, mais j'ai eu de la chance. Mon premier contrat après que j'ai fait en janvier, c'est une campagne de lingerie qui m'a remboursé directement mon...
Ta dette.
Ouais. Du coup, ça, c'était quand même un beau coup. Ouais,
ça, c'est cool.
Sauf qu'au moment en janvier, je commence à travailler. Covid.
Boom. Covid.
Ouais. Et là, depuis, ça commence à être compliqué quand même parce que les clients, la Fashion Week, tout ça, c'est plus la même chose, quoi.
Ouais, il n'y a plus de défilé en physique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos. Toi, du coup, par exemple, pour ton premier job, t'as fait des castings un petit peu ou il y a tout de suite eu le Covid quand t'as commencé?
Quand je suis arrivée en 2019, c'était septembre, c'était pendant la Fashion Week. Du coup, même si on savait que j'allais pas la faire, on m'avait envoyé à tous les castings. J'avais fait 15 castings par jour pendant une semaine. C'était vraiment une des semaines, je pense, les plus actives de ma vie. Et puis après le Covid, j'ai jamais revécu ça, en fait. Jamais, jamais. Alors que ce qu'on devrait vivre normalement tous les 6 mois, je pense. Ouais.
Non, c'est vrai que l'industrie, elle a beaucoup changé. C'est vrai que il y a moins de place sur les défilés aussi. Donc c'est différent. Il y a eu vraiment un grand changement avec la pandémie. Cool. Pour amener un petit peu au sujet principal, on a vu il y a quelques semaines que tu as lancé ta première collection de NFT. Je voudrais un petit peu que tu nous en parles. Comment c'est venu? C'est pendant la pandémie, tu as commencé à te renseigner. C'est quoi un petit peu le cheminement de pensée qui t'amène déjà jusqu'à se dire, ok, je vais peut-être le faire?
Déjà, ça fait pas tant de temps que ça que je connais les NFT. Je pense que c'est vraiment depuis peu. Novembre, décembre, Days ont posté un article sur Instagram qui disait les 3 premiers mots de l'année utilisés. Et il y avait NFT dans la liste. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je me suis renseignée, j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé quand même qu'il y avait quelque chose à faire. Ça avait l'air quand même assez intéressant. J'en ai parlé à ma mother agency parce qu'ils s'y connaissaient un peu aussi. On s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Puis après, quand on a vu tout la métaverse, les marques qui commençaient à peut-être projeter des trucs dedans, on s'est dit qu'avec tout ce qui s'était passé avec le Covid, c'était peut-être un moyen de trouver une solution ou de se placer là où le marché n'avait pas encore été pris.
Cool. Mais toi, Est-ce que t'es, je vais pas dire une geek parce qu'aujourd'hui geek et tout ça veut tout et rien dire, mais t'étais déjà sur les trucs depuis que t'es jeune, t'es, je sais pas, tu games ou t'es sur, non pas spécialement quoi.
Pas spécialement, je t'avoue que le seul jeu qui a déclenché que j'ai joué c'est Barbie quoi.
Je savais même pas qu'il y avait Barbie sur PlayStation.
Oui, Play 2, Barbie, les 12 princesses ou je sais pas quoi. C'est tout quoi.
Donc non, pas forcément un profil hyper gaming.
Non, du tout. Bah, c'est vraiment par rapport à la mode quoi, qu'on a placé le truc plus que du côté geek quoi.
Ok. Vous avez vu une opportunité, vous avez dit ok, on explore. Et du coup, ça a été quoi le process pour toi? Comment t'as créé tes images? Comment t'as choisi ta collection, etc.?
J'ai une équipe hein, derrière moi parce que je peux pas faire ça toute seule. Donc après, on a tous fait un peu notre travail, nos tâches. Et puis avec toutes nos idées rassemblées, au fur et à mesure, on a réussi à avoir cette idée de Marie Cyborg, de faire des NFT légendaires avec du coup les cyborgs, des NFT héros avec du coup... des stars de fin Kill Bill, Harry Potter.
Des trucs qui sont référencés au cinéma. Okay.
Et une partie fashion où c'est juste des versions avec un t-shirt, une boucle d'oreille, des lunettes en fond différent. Et voilà, il y a trois types.
Ok. Et du coup, comment ça se passe? C'est quoi un peu le process? Puis comment se déroule le process dans un premier temps? Et ensuite, peut-être, tu nous parleras de la réaction et...
Ça allait assez vite. Ça... Une fois qu'on était tous d'accord de ce qu'on voulait faire, comment on présentait le projet, tout le monde a fait son taf et après c'était fait quoi. Genre, y avait...
Ah ouais, t'as une équipe qui est active quoi.
Ouais, on s'est tous mis ensemble, on a tous réfléchi. Pour
ce que tu
vite,
disais
quoi.
Au ref, au truc, tout
en
ça.
Plus, ouais, en plus, on n'avait pas beaucoup de temps parce que là, les NFT, c'est quelque chose qui est en train de. C'est maintenant ou jamais. Là, apparemment,
je n'irai pas jusque-là, mais.
Je pense que ça va se développer assez vite. Donc là, la place que j'ai réussi à prendre en tant que première mannequin NFT, si c'était pas maintenant, peut-être que dans 2 semaines, il y aurait eu quelqu'un qui l'aurait fait avant. Quoi. Donc on a vraiment joué sur.
Vous avez senti
la
l'urgence et
quoi.
Vous aviez un peu le FOMO, la fear of missing out, qui a joué.
Exactement.
sur le chrono.
C'est ça.
Ok. Et du coup, donc ça s'est fait en combien de temps? Tu dirais plutôt 1 mois, 3 mois, 2 semaines? C'est quoi le timing?
2-3 mois, 3 mois.
Ah, c'est speed, 3 mois.
Ouais, en même temps, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire. Maintenant qu'on voit comment les gens là sont en train de...
Ouais, de rentrer dedans. Donc du coup, sur la totalité de la collection, il y a combien d'NFT?
2500,
ok.
Donc 2500 déclinaisons des trois catégories que tu viens de parler. Donc tu viens de parler.
Donc là, au moment où on enregistre, t'as launché la semaine dernière, c'est ça?
Dimanche, ouais.
Dimanche.
En 3h70% des NFT ont été vendus. Wow. Et en moins de 3 jours, sold out.
Vous avez utilisé quelle plateforme?
On a utilisé Hibiscus Bay.
Ok. Donc ça, c'était un choix spécifique ou
c'était pour pas être trop fondu dans la masse, parce qu'au début, on voulait sortir en Ether, mais on avait peur qu'il y a trop de projets qui sortent et de pas être remarqués. Du coup, on a préféré choisir peut-être une plus petite plateforme pour pouvoir... Okay.
Ouais, donc vous avez eu de la stratégie de lancement, tout ça. Toi, justement, moi, j'ai vu passer sur Insta, mais t'as communiqué sur les réseaux à partir de quel moment en amont, avant le lancement de ce dimanche?
Je pense 2 semaines, 1 mois avant le lancement. Okay. Truc comme ça, ouais.
Donc t'as teasé, c'était quoi un peu la stratégie que t'as utilisée?
J'ai pas vraiment teasé sur Instagram parce qu'en fait Instagram c'est pas vraiment là où les gens sont vraiment intéressés par les NFT. En fait il y a une communauté d'influenceurs NFT et de tout ce truc là de gaming, du coup on a utilisé des coms comme ça.
Ok, direct dans...
Dans le truc NFT, ouais.
C'est quoi?
C'est-à-dire?
Bah, apparemment, il y a des influenceurs NFT et des espèces de gamers qui prennent tout ça et on
Donc
a utilisé
eux, on
ça.
Donc eux ont fait la promo pour ton lancement sur leur plateforme à eux, c'est ça?
Bah ouais, comme en gros si une marque utilisait des influenceurs sur Instagram pour faire leur promo.
Ok. Ouais, donc c'est vraiment de l'influence, mais pour les NFT quoi.
Exactement.
Ils t'ont positionné, ils ont parlé de toi.
Puis
okay,
le projet a quand même bien pris, les gens ont vraiment bien réagi. Au début, on avait mis un certain nombre de NFT limités et les gens étaient là, mais non, on n'en veut plus. Donc c'est vraiment, il y a eu un effet de
Waouh.
Ok, donc c'était pas 2500 à la base, vous en avez rajouté, ou alors c'est 2500 et vous en avez ajouté d'autres?
Il y en a 2500, mais on en a rajouté quelques-uns d'autres.
Dernièrement, quoi, après le lancement, tu veux dire?
Ouais.
Ok.
Ok.
Et le lancement s'est passé comment, du coup? T'as fait un live, il me semble, ou un truc comme ça, un Discord ou...
Ouais, non, le lancement, ça s'est fait tout seul. Après, j'avais déjà fait 2-3 vidéos pour du coup, la communauté, pour dire le lancement, parce qu'au début, les gens avaient peur que ça soit pas vrai, qu'il n'y ait pas de vrai mannequin derrière, parce qu'il y a déjà eu des NFT de mannequins, mais des mannequins qui n'existaient pas derrière.
Ok, ouais, dans des trucs qui avaient été créés de toutes pièces, en fait.
Donc du coup, là, les gens ont été rassurés de voir qu'il y avait vraiment une mannequin derrière, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu aussi un emballement, parce que j'étais vraiment là derrière et c'était pas du vent, quoi.
Ok, et c'était quoi? T'avais fait des questions, des trucs, ou c'était juste des vidéos comme ça, et là, je me présente?
Pour le lunch, c'était vraiment « Hi guys, my NFT are going out soon », un truc comme ça, mais après...
Oui.
C'est quoi la question?
Non, si t'avais fait des trucs où t'avais pris des questions de la communauté, ou si, voilà, si t'avais juste fait des vidéos de lancement, ou si t'avais fait un truc où les gens...
J'ai juste fait ça pour le lancement, et maintenant que le lancement est fait et que ça a été fini, que c'est sold out, j'ai sur Discord, j'ai répondu aux gens qui avaient acheté des NFT pendant 1 ou 2 heures à leurs questions, et là bientôt je vais devoir faire un zoom avec les détenteurs d'NFT.
Ok, t'es contente de l'opération?
Franchement, ça a marché. C'était vraiment un test, on savait pas vraiment trop si ça allait prendre, ce qu'on faisait, et puis... Enfin, 70% en 3 heures, sold out 3 jours, c'est quand même, je pense, un record quand même pas mal. Sur la plateforme, je crois que c'est même le plus gros des records.
C'est le record de la plateforme?
Sur la plateforme, je crois, ouais.
Waouh. Ah ouais, donc c'est...
C'est quand même quelque chose de ouf, quoi. Même tout de suite, je réalise toujours pas.
Ouais, donc t'es contente?
Ouais, vraiment. Puis ça allait super vite et...
C'est une belle réussite.
Ouais.
Et du coup, c'est quoi l'avenir? Tu vas faire une autre série? T'as d'autres idées? T'as d'autres trucs ou pas encore?
On va voir si on fait une autre série. J'aimerais bien. Après, si on fait une autre série... J'aimerais bien peut-être en faire 2-3 que je dessinerai moi-même, quoi, parce que j'aime bien dessiner. Je me dis, ça pourrait leur donner peut-être encore plus de rareté. C'est le but des NFT, alors.
Ah, c'est une bonne idée, ça.
Ouais, et de personnalité. Enfin, c'est vraiment toi, quoi.
Ouais.
Ah, ça rajoute un layer. Marie, déjà, merci pour toutes ces réponses. C'était super cool.
Merci beaucoup.
Justement, il y a Pierre-Antoine de Tamother Agency C Models qui a vraiment participé à la création de ce projet. Du coup, on va lui passer le micro et on te remercie d'être venu nous expliquer tout ça.
Oui, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Bon, on est avec Pierre-Antoine de C-Models, qui est donc l'agence mère de Marie.
Bonjour.
On va parler un petit peu plus de la partie technique et stratégique
surtout, ouais.
Ouais, de ce projet.
Quelle opportunité vous avez vue, là je rentre direct dans le vif du sujet, quelle opportunité vous avez vue à lancer ce projet NFT? C'est quoi l'idée derrière ça et c'est quoi le projet plus global pour vous?
Alors tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est que après la crise du Covid, on s'est rendu compte que le marché s'est effondré un petit peu sur tous les plans, sur tous les secteurs, et principalement au niveau du mannequinat. On a vu les clients qui étaient beaucoup plus frileux pour pouvoir embaucher de nouvelles filles, les mettre sur des jobs importants. Et donc nous, en tant que petite structure et petite unité qui voulait grandir, on s'est rendu compte qu'on était face à un vrai problème
économique
et majeur dans la croissance d'une unité organique. Et donc ce qui s'est passé, c'est que on a réfléchi à ce que la modernité pouvait nous apporter pour pouvoir nous adapter.
Yes.
Et à force, en réfléchissant, Marie nous avait parlé... Pardon, je parle pas bien dans le micro.
Ouais.
Marie nous avait parlé qu'elle avait entendu un terme bizarre qui s'appelait NFT. Ça nous parlait pas trop. Puis finalement, on s'est rendu compte que en faisant un peu nos recherches, on commençait à comprendre que c'était non-fungible token, jeton non-fungible, donc une image virtuelle qui ne peut être reproduisible et qui ne peut être copiée, et donc qui était unique. Et l'univers du mannequinat, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est l'unicité, c'est une beauté unique, c'est quelque chose qui ne se trouve nulle part ailleurs, et on s'est dit, mais tout de suite ça colle, c'est-à-dire que Marie est une personne qui est complètement unique en son genre, comme d'autres mannequins du milieu, et on se dit, pour pouvoir la représenter et faire son éloge à travers une collection de NFT, ça pourrait être absolument phénoménal, et ça pourrait faire son entrée et trouver sa place dans le milieu justement de la modernité. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, si on veut pouvoir donner un peu de crédibilité, il faut qu'on se positionne. Et on a réfléchi avec Marie ensemble en se disant, comment tu vois les choses, comment tu verrais ta carrière, où est-ce que tu te verrais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, le métaverse a commencé à arriver. Mark Zuckerberg nous a donné beaucoup d'inspiration dans ses dernières vidéos où il nous a fait un superbe teaser. Je ferai pas sa pub là jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, voilà. Le métaverse, on s'est dit, c'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde. Des Christophe Colomb, il n'y en a plus. Des Amerigo Vespucci, il n'y en a plus. Et le métaverse, c'est le nouvel espace de liberté où on s'est dit, eh ben Marie, ça peut peut-être être la première top modèle dans ce putain d'univers. Et là, on s'est dit, il y a un coup à faire. Il faut absolument y aller. On a tapé du poing sur la table. On dit, on n'y connaît rien. On connaît que dalle. On va tout apprendre. On va tout encaisser. On va tout assimiler. Et on s'est mis. Et après avoir commencé à faire la promo en janvier, début janvier, très exactement, 30 janvier, boum, on lance la collection. On avait vu avec un designer, on avait vu avec Marie.
Justement, attends, parce que là t'arrives direct au lancement, mais on aimerait bien que tu nous parles justement du process de création des images. Donc comme Marie disait, il y a 2500 NFT sur le lancement. J'imagine que ça c'est un process de création qui prend du temps. Comment tu sources les gens, comment tu fais le lien entre les idées de Marie et ce qu'il faut réaliser en termes de création?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que au début, c'est un milieu, on voit des NFT qui s'échangent à des prix exorbitants, donc forcément, on arrive, on scanne un peu le marché, on se dit ok, ce genre de NFT, ce type de NFT s'échange le plus facilement, le plus vite et le plus cher, et donc on en tire des statistiques, on se rend compte que bah voilà, les animaux, ça a une place favorite dans les NFT, tout ce qui est lié en fait aux machines, les cyborgs, ça a une place favorite, et c'est proche de la entre guillemets des big tech, vous savez, la technologie moderne, l'avenir, le futur. Il y a eu un jeu vidéo qui a fait un carton l'année dernière où il y avait même Keanu Reeves qui avait fait la promotion qui était Cyberpunk 2077, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Aujourd'hui, on entend beaucoup de projets artistiques, et tu dois le savoir, Nicolas, qui sont tournés autour du côté un peu cyberpunk, avec, si tu veux, des projets qui vont être tournés sur le transhumanisme et tout ça. C'est pas forcément des choses sur lesquelles on va adhérer, mais c'est des choses qu'on va comprendre, et c'est des points de bascule qui vont permettre d'orienter une stratégie et de se dire ok, donc pour parler le plus aux gens et à cette communauté, il faut être sur leur code.
Ouais, il faut avoir les codes, bien sûr.
Exactement. Et donc là-dessus, on s'est rendu compte que si on avait ces codes-là, et qu'on amenait un peu de ce qu'il leur manquait, à savoir le côté de la mode, le côté des belles images, le côté d'une mannequin, avec toute l'authenticité que Marie dégage, on s'est dit, on peut peut-être amener quelque chose qui n'a jamais été amené dans ce milieu-là.
Ouais, c'est un premier bridge.
Exactement. Donc après, comment on a fait ? Eh bien, on a contacté des marketplaces, on a contacté des influenceurs de NFT, on a contacté des gens qui voulaient investir dans le métaverse. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que les gens au début qui n'étaient pas forcément très chauds ont senti qu'ils pouvaient aussi mettre un pied dans la mode, pouvoir se dire je veux détenir le premier NFT de la mannequin, et derrière, si elle va jusqu'au bout du projet, c'est-à-dire de pouvoir faire son entrée en tant que première mannequin dans le métaverse et organiser le premier fashion show dans le métaverse, je veux faire partie de l'aventure.
Ok, ok. Ouais, donc vous avez vu quand même un peu plus loin, c'est vraiment un premier doigt de pied qu'on trempe dans l'eau pour voir si la température est bonne, quoi.
Tout à fait, c'est un prototype. Ouais. Comme Marie l'a dit au début, la vérité c'est qu'on n'en savait rien.
Ouais. Non mais c'est bien, de toute façon la vie, et d'autant plus le digital, c'est beaucoup de test and learn. D'ailleurs, si on s'arrête un petit peu sur ce point-là, je sais pas si tu as envie d'en parler ou pas, mais donc il y a eu un bel accueil, ça c'est assez évident d'après les chiffres que vous nous avez donnés. C'est quoi en termes d'investissement, ce que vous avez investi versus ce que ça vous a apporté typiquement? Est-ce que c'est un projet coûteux ou est-ce que, enfin, tu vois, comme on se dit, c'est du test. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes dit, on investit et puis on voit si ça rapporte et puis ensuite.
Je suis très pudique sur ces choses-là. Je suis très pudique sur ces choses-là. Je dévoile jamais de chiffres. Non,
non, pas, c'est pas une question de chiffres.
C'est plus de la rentabilité. C'est juste que rentable ou non.
Non, non, je taquinais en gros sur ce que ça nous a coûté en termes de temps, d'énergie et d'investissement monétaire. On va dire que ouais, il y a eu un x100 qui a été fait.
Ok, énorme.
Ouais.
Ok, attends, il me faut 2 secondes. Là.
C'est super, c'est hyper encourageant en tout cas.
Non, mais c'est cool de voir des structures comme la vôtre, parce que voilà, ça fait pas longtemps que vous avez commencé. T'es une petite structure qui est en pleine progression, et c'est génial de voir que c'est pas toujours des mastodontes qui viennent et qui tapent sur tout le monde, tu vois. Et c'est pour ça qu'on voulait que vous veniez aujourd'hui parler de cette expérience, parce que je pense que ça peut inspirer plein d'autres personnes aussi, et de se dire. Enfin, c'est un peu le thème du podcast avec Sou. On s'est toujours dit, voilà, inspirer les gens et que les gens écoutent des expériences d'autres personnes et se disent, bah si eux ils l'ont fait, nous aussi on peut le faire, quoi. Donc merci d'être venu un peu parler de tout ça.
Yes, merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.
Avec
et puis,
plaisir.
On n'arrête pas de vous écouter aussi, on adore. Et
d'ailleurs, je vais passer le message, il faut s'abonner, il faut partager.
Donnez-nous de la force.
C'est déjà fait de notre côté en tout cas.
C'est gentil, merci beaucoup.
Merci à vous. Hein.